Dans sa lettre, la mère de Florence Deneffle appelle le président François Hollande à l'aide. Lettre restée sans réponse pour le moment, au grand désespoir de la famille et des proches de Florence. Tous remuent ciel et terre pour que le meurtrier présumé soit enfin arrêté par la police guatémaltèque.
Bonsoir. Quand l'auteur présumé d'un crime est à portée de main, quand on connaît son nom, son visage, ses habitudes, mais qu'on ne peut pas l'attraper, c'est ce cauchemar que vit depuis 11 ans, jour pour jour, la mère et les proches de Florence Deneffle. Cette professeure de français de 33 ans avait été enlevée et tuée en 2010 au Guatemala, où elle vivait et travaillait. L'homme soupçonné d'avoir mis fin à ses jours est depuis introuvable. Les enquêteurs locaux n'ont en fait montré aucun empressement pour le retrouver, pour l'interpeller et le questionner. La famille de Florence et la justice française se sont ainsi heurtées toutes ces années à un mur infranchissable, celui du silence, des fins de non-recevoir et de la mauvaise volonté. Existe-t-il encore une chance, une possibilité d'arrêter cet homme que tout accuse? La France s'est-elle suffisamment mobilisée pour que justice soit faite? Pourquoi une telle inertie autour de ce crime? Autant de questions que nous allons passer en revue ce soir avec cet assassinat commis au bout du monde.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire Florence Deneffle, une jeune professeure française installée depuis 3 ans au Guatemala et qui, en ce début de printemps 2010, disparaît brutalement de son domicile. Ce 24 mars 2010, aux alentours de 19h, deux femmes, deux employées de l'ambassade de France à Guatemala City, rentrent chez elles dans un quartier résidentiel de la capitale. Elles pénètrent dans une espèce de lotissement protégé, un ensemble de villas où vivent de nombreux expatriés. Ils sont ici en sécurité, dans cette ville qui bat des records de criminalité. Les deux employées sont colocataires et partagent leur habitation avec une troisième française, Florence Deneffle, une professeure de 33 ans. Depuis 2007, celle-ci enseigne l'anglais au lycée français Jules Verne. Les deux amies ont la surprise de trouver le domicile vide. La porte est restée entrouverte. Les clés n'ont pas été emportées. Rien qui ne ressemble vraiment à Florence. La professeure est plutôt du genre sérieux et soigneux. On ne l'imagine pas s'absenter ainsi au mépris des consignes de vigilance rabâchées par l'ambassade de France. Aucun étranger ne s'amuse en effet à sortir seul le soir dans Guatemala City sans avoir prévenu les uns et les autres. Les deux amies sont inquiètes. Elles tentent de joindre Florence sur son portable, sans succès. Elles font le tour de leurs connaissances communes, mais personne n'a vu la jeune prof. Une heure passe et Florence ne se manifeste toujours pas. Il est établi qu'elle devait vers 17h se rendre à un cours de capoeira, discipline sportive qu'elle pratique depuis des années et qui mêle danse acrobatique et arts martiaux. Avant d'être mutée au Guatemala, Florence avait enseigné 2 ans à l'université d'Harare au Zimbabwe, où elle avait monté une école de capoeira. Ce jour-là, elle a annulé au dernier moment sa présence au cours. Elle a expliqué qu'elle avait trop de copies d'élèves à corriger juste avant les derniers conseils de classe et les vacances de Pâques qui arrivent alors à grands pas. La prof n'a manifestement pas eu le temps de corriger ses copies. Celles-ci sont retrouvées dans sa voiture, une Chevrolet stationnée à 250 mètres seulement du domicile. Curieusement, la jeune femme a laissé sur place toutes ses affaires. On retrouve à l'intérieur du véhicule son sac et son portefeuille. Rien n'a été volé. Si la conductrice avait été victime d'une agression, d'un carjacking, comme il s'en produit souvent en ville, son argent ne serait certainement plus là. La police est prévenue. Elle redoute d'avoir affaire à un enlèvement, monnaie courante ici. Des patrouilles sillonnent toute la nuit le quartier, mais sans trouver la moindre trace de la Française. Bonsoir Edwige Laigle Deneffle.
Bonsoir Monsieur Richard.
Vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes la mère de Florence. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation ce soir. On est là au tout début de l'affaire, madame. On ignore évidemment la suite qui sera tragique pour l'instant. Pouvez-vous nous parler déjà dans un premier temps de votre fille Florence? Pourquoi a-t-elle choisi finalement d'aller enseigner au Guatemala?
Ma fille Florence avait choisi ce métier parce qu'elle adorait s'occuper des jeunes, et elle s'en occupait d'ailleurs très bien, paraît-il. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont tous ses collègues et ses élèves que j'ai rencontrés lorsque je suis allée au Guatemala à un moment donné. Pourquoi au Guatemala? Parce que avant elle avait enseigné à Harare au Zimbabwe. Et parce qu'elle était quelqu'un de très ouvert, qui donnait toujours de sa personne pour venir en aide à tout le monde, aux autres. C'était une altruiste sincère et elle aimait aider les autres. Et comme son frère mon fils aîné, habitait aux États-Unis à ce moment-là, et comme a dit Maître Nicolo lors de la première présentation de Florence dans une conférence de presse dans son cabinet, elle aurait très bien pu choisir tranquille d'aller aux États-Unis dans un lycée français auprès de son frère, mais ça ne lui convenait pas parce que elle avait besoin d'aller dans des endroits où les gens avaient des difficultés, des problèmes, et elle estimait qu'elle pouvait peut-être leur apporter du réconfort.
Je comprends tout à fait. Encore un mot, Madame L'Aigle de Nèfle. Florence, est-ce qu'elle a un caractère intrépide? Elle peut suivre quelqu'un comme ça, laisser sa porte ouverte, ou c'est un peu plus compliqué?
Oh non, non. D'abord, elle avait 32 ans et demi quand ce drame s'est produit, ou 33 ans. Non, jamais, jamais Flo aurait suivi quelqu'un comme ça, inconnu. Pourquoi faire? Non, pas du tout. Si la maison était ouverte quand ces petites colocataires sont arrivées... Déjà, c'est inquiétant et tout à fait anormal.
Bien sûr.
Florence avait une mission, c'était de corriger ses copies, puisque deux jours après, étaient les congés de Pâques, et elle devait d'ailleurs rentrer chez nous.
Elle devait effectivement rentrer en France, elle avait prévu d'aller vous voir, etc., vous visiter. La dernière fois que vous l'avez eue au téléphone, il n'y avait pas d'inquiétude particulière, votre fille était comme d'habitude?
Oui, elle était tout à fait comme d'habitude. Cependant, elle m'avait dit... c'est curieux, j'ai retrouvé la montre de Christian sur ma table de nuit. J'ai dit, mais comment a-t-il pu rentrer? Il n'avait pas de clé. Christian, c'était un petit ami, ils avaient rompu. Ils n'ont jamais habité ensemble, oui, il n'a jamais eu les clés de sa maison.
On va parler évidemment de Christian, puisque c'est le personnage principal, hélas, j'ai envie de dire, de cette histoire. On va y venir, mais effectivement, elle s'étonnait un petit peu de cette présence incongrue déjà à l'époque. Elle était heureuse dans sa vie, Florence? Elle était célibataire, je crois, mais elle avait envie peut-être de fonder une famille à un moment donné?
Pas à ce moment-là, elle aurait bien fondé une famille, mais elle n'avait pas encore rencontré la personne qui lui convenait vraiment.
Oui.
C'était une personne qui aimait faire beaucoup de choses, du sport, elle était assez sportive, écouter les autres, elle avait toujours des activités en cours.
Mais c'est ça, c'était une personne qui était à l'écoute des autres. Bonsoir Alain Dalby.
Bonsoir, Monsieur Richard.
Merci.
Vous permettez deux minutes que
Allez-y.
Je salue Madame L'Aigle, avec qui nous avons eu des moments très forts et très douloureux ensemble, suite à la mort de Florence. Et je tiens à la saluer. Bonsoir, Madame L'Aigle.
Voilà.
Bonsoir, Monsieur Dalby.
Voilà, vous vous écoutez les uns les autres, et c'est très très bien de vous saluer comme ça, parce qu'effectivement, c'est presque une histoire intime que vous avez vécue tous dans ce drame. Alain Dalby, vous êtes, je le précise, ancien attaché de sécurité intérieure au Costa Rica. Vous avez évidemment bien connu cette affaire, et on va y venir dans les chapitres suivants. Déjà un petit mot, juste un mot sur les enlèvements dans la région. C'est monnaie courante dans ce coin d'Amérique centrale?
Tout à fait. Je vous rappelle que le triangle, ce que moi j'appelais le triangle nord de l'Amérique centrale, à savoir Salvador, Guatemala et Honduras, font partie des pays les plus dangereux au monde après les pays en guerre. Les morts sont courants, même la nuit. Le lendemain matin, moi, il m'est arrivé souvent quand j'allais en mission au Guatemala, car vous l'avez dit, j'étais au Costa Rica, mais j'avais toute l'Amérique centrale en charge, à savoir du Panama jusqu'au Guatemala, frontière avec le Mexique, c'est-à-dire 7 à 8 pays, puisque Belize étant un tout petit pays aussi compris dans l'Amérique centrale. Et il m'arrivait souvent de me déplacer pour voir, on le dira tout à l'heure, travailler avec les ambassades et les ambassadeurs. Et il m'arrivait le matin de voir quand mes collègues de la police du pays où je me déplaçais, en particulier le Guatemala et le Honduras, et il m'arrivait de voir des cadavres par terre comme ça. Et ils faisaient même plus attention, les gens venaient les prendre comme ça, et ils les mettaient en disant, un mort de plus. effectivement. Et les enlèvements, ils sont quelque chose de très très fréquent, parce que les maras, on en parlera tout à l'heure, ces petits groupes de jeunes très violents, c'était leur façon...
On y viendra,
toujours,
évidemment.
Ils existent toujours, même aujourd'hui. Hein.
Florence Deneffe a disparu dans un pays dangereux. Un scénario pour le moins inquiétant qui, dans les heures suivantes, va se révéler dramatique. La professeure va être retrouvée morte, assassinée. Après une nuit de recherche dans les rues de Guatemala City, la police locale n'a retrouvé aucune trace de Florence Deneffe. L'ambassade de France, où l'on connaît bien l'enseignante, ne dispose d'aucune information supplémentaire. Jusqu'à cette dramatique nouvelle, ce 25 mars au matin, des ouvriers agricoles de la plantation de café Aguatibia à San José Pinula, dans la campagne avoisinant la capitale, ont découvert un corps. Alors qu'ils se rendaient dans les champs, ils ont aperçu la silhouette d'une femme vêtue d'un t-shirt rose foncé et d'une jupe de couleur beige. Elle reposait sur le dos et ne portait pas de chaussures. Étendue au pied d'un arbre, légèrement en contrebas de ce chemin emprunté, essentiellement par des journaliers, au kilomètre 28 précisément. Les policiers effectuent les constatations d'usage sans vraiment s'attarder. Personne n'a rien vu de suspect ou entendu quoi que ce soit. Le corps est transporté à la morgue. Il s'agit bien sûr de celui de Florence Deneffe, une ressortissante française portée disparue. La victime ne porte pas de traces de coups ou de blessures apparentes. La mort n'a pas été causée par une arme blanche ou une arme à feu. Elle n'a pas été étranglée. Les légistes concluent que la jeune femme est morte par suffocation, asphyxiée probablement à l'aide d'un sac plastique. La mort de Florence Deneffe est un choc pour sa famille en France, qui va bientôt être prévenue de ce décès, et par ses amis de Guatemala City. L'ambassadrice de France, dont les deux enfants étaient dans la classe de Florence, s'active pour qu'une enquête soit aussitôt déclenchée. Le Quai d'Orsay est prévenu du crime, il fournit aussitôt une assistance psychologique et dépêche une équipe d'enquêteurs, deux policiers attachés de sécurité intérieure à l'ambassade de France au Costa Rica, un pays voisin, sont envoyés sur place. Ces enquêteurs chevronnés, rompus aux méthodes de police judiciaire, aimeraient bien être totalement associés aux investigations, mais ils ne vont avoir qu'un rôle d'observateur, pas le choix. Ils doivent se contenter de ce que leur communiquent leurs homologues guatémaltèques, c'est-à-dire quasiment rien. Il s'avère que l'enquête locale est conduite à la légère. Aucun interrogatoire digne de ce nom n'est mené. Le voisinage n'a pas été entendu. Les prélèvements d'empreintes et d'ADN n'ont pas été effectués. La voiture de la victime est restée sur place sans être ouverte ou vérifiée. Même l'autopsie paraît défaillante. Les proches de Florence Deneffe n'ont aucune certitude sur les conclusions des légistes. L'heure du décès, établie autour de 3 heures du matin le 25 mars, ne serait pas certaine. Autant dire que les investigations démarrent dans un parfait désordre. Edwige Laigle Deneffe, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime avec nous. Vous êtes la maman, hein, je le précise, de Florence. Vous vous souvenez évidemment de cette heure fatidique où vous avez appris la mort de votre fille. Qu'est-ce qu'on vous dit à cette époque? Comment vous...
Ce sont les gendarmes qui sont venus nous prévenir que Florence avait été retrouvée morte sur à Guatemala City, assez loin de son domicile, je ne sais plus combien, mais peut-être une trentaine de kilomètres de son domicile. Évidemment, c'est, vous imaginez, c'est l'effondrement, c'est l'horreur. Mmh. Et ça s'est produit 2 jours avant le début de la Semaine Sainte.
Oui, c'est ça.
Pour ça que les interrogatoires n'ont pas eu lieu, parce que même au Guatemala, même une enquête criminelle s'arrête pendant la Semaine Sainte. Donc il avait très bien calculé son affaire, ce monstre, et il a fait ça juste avant la Semaine Sainte. Voilà. J'en parle pas plus de ce qu'il a fait ou pas fait, parce que c'est absolument tellement abject. En revanche, peut-être Monsieur Dalby pourra vous donner
On va retrouver Alain Dalby, ancien attaché de sécurité intérieure au Costa Rica, dans une seconde. Mais Madame Laigle Deneffe, qu'est-ce qu'on vous dit à l'époque? Vous avez du mal à avoir des informations sur ce qui s'est passé exactement?
On me dit, on a retrouvé, enfin les gendarmes qui étaient quand même très embarrassés. C'est épouvantable aussi pour eux de venir faire une telle annonce. On me dit que ma fille est retrouvée morte. Voilà. Bon. Et donc, on me dit, il faut contacter l'ambassade de France. demain matin, enfin avec le décalage horaire c'était compliqué, et pour l'instant on ne sait pas ce qui a causé sa mort, bien évidemment. Donc j'ai attendu la bonne heure pour appeler l'ambassade de France, et là on m'a dit que, on m'a précisé que c'était malheureusement vrai, qu'on avait retrouvé Florence, que son corps avait été reconnu par le consul qui était sur place, peut-être, enfin par des personnes officielles, et peut-être par une amie.
Ça
en était, parce que c'est tellement incroyable que j'ai dit c'est pas possible, c'est une erreur, c'est pas elle.
Bien sûr, c'est le choc est tellement immense.
Pourquoi elle serait retrouvée comme ça sur le bas-côté d'un chemin? Enfin, ça s'appelle incroyable au vrai sens du mot.
Tout à fait, je comprends bien. Alain Dalby, on vous retrouve, ancien attaché de sécurité intérieure au Costa Rica. Vous êtes l'un des policiers qui est parti sur place et qui a enquêté sur cette affaire.
Exactement.
Alors, dites-nous très simplement, j'ai parlé d'une enquête qui était un peu fermée côté guatémaltèque. Ça, je pense que ça ne vous a pas trop surpris, mais quel est l'accueil sur place?
Non. Eh bien, écoutez, nos collègues nous ont reçus comme on reçoit deux collègues, même étrangers, ça tire bien. Mais effectivement, nous nous sommes rendus compte tout de suite que l'enquête était vraiment, je dirais pas bâclée, mais mal faite à la façon, malheureusement, latino-américaine. Ce sont des polices qui sont moins bien formées que nous. Donc, effectivement, la scène de crime, la voiture en particulier, qui était quand même le maillon principal dans un premier temps de l'enquête, et avait pas été protégé, les gens étaient rentrés dedans. D'ailleurs, ça avait entraîné un conflit même entre policiers et guatémaltèques entre eux, parce que un des personnages, même de l'ambassade, la sécurité de l'ambassade, gendarme, était rentré dans la voiture alors qu'on avait dit que surtout il ne fallait pas toucher à cette scène de crime. Oui. Enfin, c'est vrai que c'était parti sur de très très mauvaises bases.
C'est à peu près n'importe quoi. Pour nous résumer un petit peu, Alain Dalby, la justice, ça fonctionne comme en France, c'est-à-dire qu'il y a un magistrat instructeur, il y a des policiers, il y a un procureur.
N'oubliez pas que c'est un peu le système américain. Ce sont les magistrats qui sont les chefs d'enquête. Ce ne sont pas les policiers. Ouais. Donc, au tout début, donc c'est vrai que c'est la police, mais après le dossier est transmis au procureur, qui lui-même délègue un magistrat, et c'est le magistrat qui, en fin de compte, vient sur place et dit faut faire ci, faut faire ça, faut pas faire, faut pas ça. Donc, pour nous qui sommes un peu dans le système romain du droit, c'était un peu surprenant. Mais quand on connaît la façon dont travaillent nos collègues latino-américains, comme beaucoup de pays dans le monde, ça m'a pas gêné. Ce qui m'a gêné, je vous dis, c'est ce qui, non, même pas choqué. Ça, on peut pas être choqué. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous êtes choqué, vous avancerez pas avec les collègues, parce qu'ils ont une façon de travailler qui n'est pas la nôtre, européenne. Il faut le reconnaître. Mais il faut plutôt, comme vous avez dit justement, être observateur, mais être un observateur intelligent, à savoir leur dire. Vous ne feriez pas ça, plutôt vous n'avez pas oublié ça, et ça, il l'accepte.
C'est ça. Un homme va apparaître dans le paysage de l'enquête, un proche de Florence Deneffle, son ex-petite amie disparue alors qu'on venait de retrouver le corps de la Française. Il va faire figure de témoin principal, puis de suspect numéro 1. Malgré des investigations qui ne semblent avoir jamais vraiment démarré, la police de Guatemala City a même mis son enquête entre parenthèses lors des vacances de Pâques. Le nom et le visage d'un homme apparaissent. Il s'agit d'un certain Christian Benjamin Martinez Castillo, 31 ans. Il est employé dans une société d'informatique. C'était l'ex-petit ami de l'enseignante française. Depuis le crime, Castillo demeure introuvable. Impossible de savoir à ce stade du dossier si cet homme doit être considéré comme témoin, comme victime, il aurait pu lui aussi être enlevé et peut-être tué, comme Florence, ou comme l'auteur du crime. Étienne Nicolo, l'avocat de la famille Deneffle, le présente alors comme un personnage central dans cette affaire, car il a disparu au moment même de l'assassinat. Cet homme n'a jamais vécu avec la Française, il a fréquenté Florence pendant une dizaine de mois, puis elle a décidé de rompre au mois de février 2010, un mois seulement avant qu'on ne la retrouve morte. À ses proches et à sa mère, elle avait raconté que cet ex s'était montré pressant après la rupture. Castillo venait souvent frapper à sa porte. Elle s'était un jour disputée avec lui, le ton était monté et le prétendant était reparti en colère. La police tergiverse, 2 mois après le crime, au mois de mai, un mandat d'arrêt est lancé contre Martinez Castillo. En dépit de l'identification d'un suspect, aucune véritable recherche n'est entreprise pour le localiser. Pour les autorités du Guatemala, Christian Benjamin Martinez Castillo est tout simplement introuvable. La mère de Florence Deneffle trouve alors aberrant que la police du Guatemala demeure à ce point inerte. Lors d'une conférence de presse, elle déclare « Nous voulons que le coupable soit arrêté, jugé et puni » et que soit rendue sa dignité à ma fille. Le 5 août 2010, la famille dépose une plainte pour enlèvement et meurtre auprès du parquet de Perpignan, procédure qui entraîne la désignation d'un juge d'instruction. Une enquête en quelque sorte parallèle à celle des autorités guatémaltèques. Des investigations, il faut bien le dire, soumises à la bonne volonté et à la coopération du pays où s'est déroulé le crime. 9 mois après la tragédie, la mère de Florence rencontre la ministre des Affaires étrangère de l'époque, Michel Alliot-Marie. Celle-ci l'assure que tout sera entrepris pour que le dossier avance. Bonsoir Maître Étienne Nicolo.
Bonsoir.
Vous êtes, merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats, je le précise, de la maman et du beau-père de Florence, auteur du livre Erreur criminelle chez JPO Éditions, collection Jacques Pradel. Jacques Pradel, évidemment, qu'on salue chaleureusement ce soir. Maître Nicolo, je parlais de cette procédure ouverte en France. Elle est finalement, cette enquête, cette plainte qui a été déposée, elle est finalement à la merci des autorités guatémaltèques. C'est le bon vouloir du Guatemala qui peut transmettre ou non des documents, c'est ça ?
Non, le Guatemala a transmis au juge d'instruction français la totalité du dossier. Mmh. Nous l'avons fait traduire. Donc, nous savons avec certitude aujourd'hui que le suspect est le coupable. C'est celui qui a tué donc Florence Deneffle. Mmh. Et les policiers français ont fait du travail. Ils ont travaillé notamment sur les ordinateurs qu'ils ont pu avoir et se procurer, les ordinateurs donc du suspect. Et donc, nous avons aujourd'hui, dans ce dossier, les éléments qui permettent d'avoir la certitude que ce Martinez Castillo est bien l'auteur du crime commis sur Florence Deneffle. On a ces éléments-là, c'est une certitude. D'ailleurs, cette certitude, les autorités guatémaltèques devaient l'avoir aussi, puisqu'ils avaient les éléments du dossier de l'enquête.
Mmh. Bien sûr. Alors justement, vous parlez de la police française. On en a un ce soir en ligne. C'est Alain Dalby, ancien attaché de sécurité intérieure au Costa Rica, qui a enquêté sur cette affaire là-bas, sur place. Alors, Alain Dalby, ce que dit Maître Nicolo est important, parce que lui, il dit que très vite, on a su que finalement, ce Christian Benjamin Martinez Castillo, il était dans la ligne de mire de l'enquête. Pourquoi on le recherche pas à ce moment-là? Ça paraît complètement à l'arrêt, cette histoire.
Oui, parce que je rappelle, comme je disais tout à l'heure, qu'on est au Guatemala. Mmh. Le Guatemala, et malheureusement, Mme Deneffle le sait, ainsi que son avocat, est touché beaucoup par le féminicide. Mmh. Et tout de suite, nous, policiers, quand nous sommes allés sur place, tout de suite, nous avions pensé à ça. On a écarté très très vite les maras, ces groupes, ce que je vous disais, de jeunes qui l'auraient enlevé pour avoir de la rançon, même les policiers guatémaltèques l'ont enlevé, et on s'est remis directement, effectivement, sur son ami, sur ce fameux Christian. Mmh. Donc, pourquoi ça traînait? Bon, il n'y a eu pas, comme vous a dit justement Madame L'Aigle, mais surtout, au Guatemala, n'oubliez pas que le féminicide est presque reconnu comme une chose banale.
Oui, c'est ça.
Beaucoup
c'est
de femmes meurent. Donc, au tout début, les policiers ont dit « Oui, c'est peut-être ça. Il a peut-être été victime de son compagnon qui était jaloux, avait peur d'être abandonné.
Exactement.
Parce qu'elle lui avait dit… »
Ce que vous nous dites, Alain Dalby, c'est que finalement, c'est un crime banal, hein, on peut dire. Hein, hélas, tragiquement banal.
Pour eux.
Au Guatemala, je précise, hein, même si effectivement…
Au Guatemala, tout à fait.
Oui,
voilà. Et c'est pour ça que… C'est pour ça, si vous permettez, que, et Madame L'Aigle sait, nous avons mis la pression. le ministère de l'Intérieur et moi-même, à laquelle je me déplaçais souvent avec notre ambassadeur, nous avons mis la pression sur les autorités aussi bien policières, mais, comme je vous disais tout à l'heure, juridiques. C'est elle qui, enfin, le procureur général, c'est lui qui avait l'enquête.
Bien sûr.
Donc nous lui avons fait comprendre que pour nous, un féminicide, c'est pas quelque chose de banal.
C'est banal, oui, bien
c'est
sûr.
Pas vrai. C'est une Française, c'est une de nos compatriotes qui a été morte par un Guatémaltèque qui lui a pensé que c'était normal. Comme on fait beaucoup au Guatemala, je vous rappelle que quand j'y étais, c'était à peu près 600 femmes tuées
par an.
Oui,
c'est énorme. Les chiffres sont absolument effarants. C'est incroyable.
Et donc, si vous permettez, c'est là où a eu le gros problème, c'est de faire rentrer dans l'esprit de nos collègues guatémaltèques que pour nous, c'était important, c'était primordial et qu'on ne laisserait pas passer ça.
Je comprends bien, c'est une question presque quasiment culturelle. On a également en ligne ce soir, évidemment, Edwige Laigle de Neuf, la maman de Florence. Qu'est-ce qu'elle vous disait, Florence, sur ce Christian Benjamin Martinez Castillo? Elle vous en avait parlé à plusieurs reprises?
Oui, elle m'en a parlé, oui. Elle le trouvait très possessif et ça ne supportait pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Florence faisait de la capoeira, ou c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs, et lui, pour la surveiller, il s'était inscrit au même cours de capoeira. Elle a trouvé ça insupportable. Si bien qu'un jour, quelques mois après qu'ils se soient rencontrés, elle lui a dit « Bon, écoute, on peut rester amis, mais c'est tout. Tu es trop possessif. » Et je crois qu'il a très mal pris la chose, mais elle ne m'a jamais dit qu'elle avait eu peur de lui.
C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Elle n'avait pas peur de ce personnage?
Non. Et quand l'histoire de la montre, quand je lui ai dit « Florence, fais changer tes serrures », elle m'a dit « Mais non, maman, que veux-tu qu'il me fasse? Il m'aime trop. » Bon, voilà.
Les mois et les années vont passer sans que le suspect numéro 1 ne soit jamais entendu ou interpellé. Il apparaît que cet homme a des accointances au sein du crime organisé. Il serait protégé par un gang auquel les autorités du Guatemala ne s'attaquent pas. Ce jeudi 24 mars 2011, un an après la mort de sa fille, Edwige Laigle de Neufle s'envole pour le Guatemala. Voyage destiné à relancer coûte que coûte une enquête qui sommeille. La mère de Florence va profiter de ce déplacement pour rencontrer les représentants de l'association Sobrevivientes qui s'occupe des victimes et à travers laquelle elle a pu se constituer partie civile. Pour avoir aussi un entretien avec le ministre de l'Intérieur guatémaltèque et lancer officiellement un avis de recherche avec à la clé une récompense de 30 000 quetzals, un peu plus de 3 000 euros. Pour toute information permettant l'arrestation de Christian Benjamin Martinez Castillo. Sa photo est diffusée alors dans tous les commissariats de la ville. On retrouve l'avis de recherche placardé dans les bâtiments administratifs. Il est possible que le jeune informaticien soit caché par sa propre famille. Famille qui n'a signalé sa disparition qu'une semaine après, sans jamais montrer de signe d'inquiétude. Au fil des mois, il apparaît que Martinez Castillo, le suspect numéro 1, ferait partie d'un groupe de maras, ces gangs armés ultra-puissants installés en Amérique centrale et qui règnent sur les trafics de stupéfiants, le racket et la prostitution. Le fait que le jeune homme soit affilié à l'une de ces organisations expliquerait qu'il soit devenu intouchable. La police du Guatemala est toujours réticente à lancer des enquêtes en profondeur sur ce genre d'organisation mafieuse ultra-violente. Un scénario est alors avancé. Il se pourrait que l'ancien petit ami, furieux d'être plaqué, ait organisé un rapt dans l'objectif d'obtenir une rançon. L'enlèvement aurait mal tourné et la Française aurait finalement été tuée. Deux mandats d'arrêt internationaux lancés par la France ne parviendront pas à changer la donne. L'assassin présumé de Florence de Neufle va continuer à échapper à la police du Guatemala et à la justice française. Alain Dalby, ancien attaché de sécurité intérieure au Costa Rica, vous connaissez parfaitement cette région et ces pays. Vous avez enquêté sur cette affaire à l'époque. Cette piste des fameux maras, ces groupes criminels organisés, elle est valable ou pas selon vous?
Honnêtement,
vous n'y croyez pas?
On n'y croit pas trop. Non, non. Même les collègues ont dit, parce que les maras ne fonctionnent pas comme ça. Les maras, ce sont des groupes qui vivent en autarcie, qui ont la main mise sur un quartier. Ils vivent et ils sont, comme vous l'avez dit justement, et les policiers le savent, presque intouchables. Quand la police va dans les quartiers pour arrêter des maras, c'est des morts, hein,
oui,
entre policiers et maras. C'est le western, si on peut dire. Hein. Donc, je n'y crois pas. Moi, et Madame Lègue le sait, depuis le départ, nous étions pour un féminicide. C'est clair, pour moi, et beaucoup de policiers, même le chef de la police que je voyais souvent, pour lui, il ne croyait pas trop aux maras, parce que, comme moi, c'est pas leur style de faire ça.
Ouais, c'est ça.
On pense vraiment que c'est la réaction. Et je vais vous dire pourquoi on est plus... Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit justement, la famille a protégé l'assassin. Mmh. On le sait en particulier sa sœur, vous vous rendez compte ? La sœur qui protège l'assassin d'une autre femme.
Ça, vous le savez, ça, Alain Dalby. Vous le savez, ça. La sœur a protégé son frère.
Oui, la famille en partie. Je vais vous dire pourquoi, sans trahir, parce que l'affaire est bien avancée. Et c'est que les collègues ont trouvé dans les ordinateurs un numéro que la sœur employait et se servait beaucoup pour appeler son frère. Et quand on a su qu'il était le principal coupable, ils ont mis sa sœur sur écoute. Et c'est là où on a pu savoir plus ou moins qu'on pensait qu'il se trouvait au Mexique. C'est pour ça que mon collègue qui était à Mexico est venu nous aider là-dessus aussi. Parce que il aurait quitté, grâce à sa famille, il aurait quitté le Guatemala. Sa famille l'aidait à vivre. Parce qu'une fugue, c'est comme un bandit normal, ça coûte cher. Donc, la famille l'aidait à vivre au Mexique.
D'accord.
Moi, quand je suis parti en 2015, on en était toujours à cette donnée. Il ne serait plus au Guatemala et il serait quitté le Guatemala pour le Mexique. Mais je peux vous dire, et pour moi, mon idée primordiale est toujours, c'est un féminicide des plus violents, comme il y en a malheureusement énormément au Guatemala et dans d'autres pays de ce triangle que je vous ai dit tout à l'heure.
C'est ça. Une région que, encore une fois, vous connaissez parfaitement et vous êtes vraiment au fait de cette enquête. J'aimerais qu'on entende Maître Étienne Nicolo, qui est également en ligne ce soir dans l'heure du crime, avocat de la maman et du beau-père de Florence. J'ai dit, Maître Nicolo, on vient d'entendre Alain Dalby, là, parce qu'il y a eu des avancées dans cette enquête et Alain Dalby nous en parle très très bien. J'ai dit dans ce récit qu'il y avait deux mandats d'arrêt internationaux déclenchés. Pourquoi ça ne fonctionne pas, ces mandats d'arrêt internationaux ?
Alors, les mandats d'arrêt internationaux ne sont efficaces que si la personne recherchée franchit une frontière. Or, comme le disait M. Dalby, il est probable que cet individu se soit réfugié au Mexique ou aux États-Unis et qu'il n'en bouge pas, sachant bien que si jamais il essaie de passer par un aéroport ou par une gare, il peut être interpellé. Mais tant qu'il ne bouge pas du pays dans lequel il s'est réfugié, on ne peut pas l'atteindre, ne peut pas le trouver. Alors la difficulté, c'est qu'effectivement, il faudrait que les autorités guatémaltèques et la police guatémaltèque cherchent où il peut se trouver pour qu'on puisse donc savoir où il se trouve et pouvoir l'interpeller. Mais ça, c'est la difficulté dans ce dossier. Parce que cet homme est en fuite et il n'est pas certain, comme le disait M. Dalby, que les autorités du Guatemala aient tout fait pour retrouver cet homme et pour le retrouver rapidement.
On comprend bien qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose sans doute qui a été fait pour retrouver ce personnage. Madame Edwige Lègle de Neff, la maman de Florence, invitée ce soir également de l'heure du crime, ce voyage au Guatemala que vous avez fait à l'époque, il a été important pour vous ? Vous avez pu rencontrer du monde, vous faire une idée peut-être plus précise de ce qui avait pu arriver à Florence ?
Il a été extrêmement important, déjà pour moi-même. J'ai rencontré Monsieur l'ambassadeur, qui m'a fort bien reçu et il m'a fait rencontrer tous les officiels qui étaient sur cette affaire au Guatemala. J'ai pu vraiment avoir des échanges très très positifs. J'ai vraiment cru que l'affaire allait avancer. J'ai rencontré des personnes de la police guatémaltèque. J'ai rencontré l'équivalent d'un ministre de la justice. J'ai rencontré des gens importants. Et c'est vrai que tout le monde... Et quelqu'un m'a dit, sans la pression de la France et de la famille, il y a longtemps que cette affaire serait tombée aux oubliettes. C'était un an après, parce qu'il y a tout de même, à l'époque, il y avait 17 meurtres par jour dans ce petit pays de 15 millions d'habitants, je crois. Mmh. Hein. Donc, ils sont complètement débordés, dépassés, et puis ça les intéresse pas trop. Chacun règle ses petites affaires, et voilà.
Finalement, on oublie les dossiers, c'est ça que vous voulez nous dire.
Exactement. Hein.
La mère de Florence Deneffe va continuer à frapper à toutes les portes pour faire avancer l'enquête. Élysée, ministère de la Justice et de l'Intérieur, sans résultat probant, mais avec une éclaircie, un procès en France, en l'absence de l'accusé, n'est désormais plus exclu. Le juge de Perpignan, qui instruit côté français le dossier Florence Deneffe, arrive sans doute aujourd'hui au bout de son enquête. Force est de constater qu'au cours de toutes ces années, la justice n'a obtenu que des informations disparates et partielles en provenance du Guatemala. Le juge d'instruction a pu toutefois se faire communiquer l'intégralité de la procédure qui a dû être traduite. Très récemment, il a également demandé la transmission des tout derniers éléments réactualisés, notamment ceux concernant les recherches du suspect numéro 1, introuvable depuis la mort de l'enseignante. Maître Philippe Capsier, l'un des avocats de la famille de la victime, avec maître Étienne Nicolo, indique dans le journal L'Indépendant « On va maintenant demander la clôture de l'instruction pour que la justice puisse organiser le procès de ce suspect, même en son absence devant une cour d'assises. » Un procès en l'absence de l'intéressé, Christian Benjamin Martinez Castillo. C'est l'ancienne procédure de contumace. Ce procès pourrait donc se tenir dans plusieurs mois devant les assises des Pyrénées-Orientales. Seul moyen pour la famille de Florence d'obtenir justice. En 2017, les proches de l'enseignante du lycée Jules Verne de Guatemala City avaient lancé une pétition en ligne et obtenu quelque 150 000 signatures. Pétition adressée au président Emmanuel Macron et au ministre de la Justice. Les signataires n'avaient alors reçu aucune réponse, au grand regret de la mère de Florence, craignant alors que ce dossier ne soit plus une priorité pour les autorités françaises et pourrait être oublié. Maître Étienne Nicolo, ce soir dans l'heure du crime, avocat de la maman et du beau-père de Florence. Alors là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Ce procès, il est possible aujourd'hui, il est envisageable, je le précise, en l'absence de l'accusé, évidemment.
Il est juridiquement possible. Pourquoi ? Parce qu'on peut juger en France un crime commis à l'étranger, même si c'est un étranger qui l'a commis, à condition qu'il s'agisse donc d'un Français ou d'une Française qui en a été victime. Mmh. Donc, c'est possible. C'est d'autant plus possible dans cette affaire que le juge d'instruction possède les éléments permettant d'avoir la certitude que Martinez Castillo est vraiment coupable, que c'est lui qui a tué Florence Deneffe. Mais est-ce que c'est souhaitable ? Il n'y a pas de convention d'extradition entre la France et le Guatemala. Oui. Et le Guatemala n'extrade jamais ses ressortissants. Si donc Martinez Castillo est condamné en France, sachant qu'on ne peut pas juger deux fois un homme pour les mêmes faits, il pourra rentrer dans son pays et y couler des jours tranquilles dès lors que personne ne pourra l'en sortir, il ne pourra pas être extradé.
Je comprends bien ce scénario, Maître Nicolo, mais entre nous, on n'a pas l'impression que le Guatemala, il se décarcasse pour trouver cet homme et qu'il puisse le juger un jour.
Il faut être clair
là-dessus. Donc peut-être autant, une bonne fois pour toutes, qu'il soit jugé en France, ne serait-ce que pour la famille de Florence.
Oui, ce sera une satisfaction morale. Mais ça n'empêchera pas cet homme de vivre tranquille, y compris au Guatemala, et surtout au Guatemala. Mmh. Alors, c'est difficile de prendre la décision de demander au juge
bien sûr
de poursuivre cet homme et de le faire condamner en France.
Je comprends, c'est un dilemme, mais au cas où il y ait cette demande qui soit faite et que le juge décide finalement de se renvoyer devant une cour d'assises en l'absence de l'accusé, ça pourrait se tenir à quel terme, un tel procès, maître, dans les deux ans à venir ?
Dans quelques mois.
Ah oui, très vite. Donc.
Ah oui, très vite, puisque le dossier est en quelque sorte complet. Mm-hmm. Il y a les éléments de l'enquête qui ont été traduits. Il suffit à ce moment-là de citer cet homme à sa dernière adresse connue au Guatemala. Évidemment, il ne se présentera pas à l'audience. mais les jurés le condamneront avec certitude à une peine importante, puisque le féminicide qu'il a commis et qui au Guatemala est peut-être monnaie courante, ne l'est pas en France.
Oui, tout à fait. Il aurait effectivement une lourde peine devant une cour d'assises. Alain Dalby, ancien attaché de sécurité intérieure au Costa Rica, en quelques mots, très simplement, est-ce qu'il y a un espoir d'imaginer une arrestation de ce personnage au Guatemala ou au Mexique ou ailleurs? Est-ce que c'est envisageable?
Honnêtement, je ne crois pas.
C'est ça.
Je pense, et Mme Lègue le sait, elle fait ce qu'elle doit faire, c'est très bien, je la soutiens, elle le sait, mettre aussi soutien. Mais on arrive à un moment, moi je connais bien mes collègues latino-américains, je vous l'ai dit depuis le départ, je vous rappelle juste un petit chiffre et j'arrêterai là-dessus. L'impunité au Guatemala, c'est 98% des crimes qui restent impunis.
Incroyable.
Vous rendez compte ?
Incroyable. Donc 98%. Ça, c'est sûrement un record mondial, je pense. Hein.
Oui, c'est parmi les pays, je vous l'ai dit tout à l'heure,
tout à fait,
les plus dangereux au monde. Ouais. Et moi, j'ai peur, malheureusement, comme dit justement Maître Colliot, que on n'arrêtera jamais ce Christian. Et la famille, je le répète, je vous le dis, la famille étant derrière, le féminicide étant reconnu comme quelque chose de culturel. Malheureusement, j'ai bien peur que, comme le dit justement mon maître, il coule des jours heureux en ayant tué une de nos compatriotes.
Tout à fait. Et Edwige Lègle de Neff, la maman de Florence, j'aimerais qu'on vous attende. On arrive à la fin de cette heure du crime, mais je voudrais vous donner la parole tout de suite. Vous avez un espoir, soit d'un procès, peut-être que vous le souhaitez, peut-être non.
J'avoue que nous avons tous la famille. Tous les membres de la famille soif de justice et qu'ils soient condamnés en France nous apporterait déjà la reconnaissance par la France de cette horreur.
Hein, bien sûr.
D'une part, mais en même temps, j'ai besoin tout de même de parler avec mes avocats parce que j'ai toujours espoir qu'il puisse être arrêté. Actuellement, Madame la juge fait des commissions rogatoires. Il faudrait en faire une au Mexique aussi. Ce serait intéressant parce que s'il est au Mexique, on peut le retrouver avec ses empreintes. Parce qu'au Mexique, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il relève les empreintes. J'ai encore un espoir de ce côté-là.
Vous avez un espoir et on l'entend bien d'ailleurs. Et c'est formidable d'avoir encore cet espoir 11 ans après les faits. Vous avez, Madame Edwige Lègle de Neff, envie aujourd'hui de toute façon de continuer le combat. Vous ne baisserez pas les bras?
Non, je ne baisserai pas les bras. C'est très, très fatigant, très épuisant. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi il a fait ça. C'est pas du tout dans un esprit de vengeance. Hein. C'est plutôt, il faut que justice soit faite. Un crime impuni, déjà un crime tout court, c'est une horreur. Mais un crime qui reste impuni, c'est insupportable. Et j'ai besoin de parler avec mes avocats pour voir ce qu'il convient de faire. Et puis on n'est pas absolument pressé. Donc je prends encore un peu de temps pour la réflexion. Et je verrai aussi avec Madame la juge.
Bien sûr. Et vous seriez prête éventuellement à retourner au Guatemala si cela était nécessaire, s'il le fallait, pour que ça puisse faire avancer encore une fois le dossier?
Oui, bien sûr. Mais je ne vois pas pourquoi et comment, moi, je ferais avancer le dossier. Maintenant, ce qui pourrait faire avancer le dossier, c'est que les autorités françaises, au plus haut niveau, se mobilisent très fort. C'est-à-dire, mais je ne sais pas qui est l'ambassadeur maintenant au Guatemala.
Je ne sais pas, mais je suis même pas au courant
de ce qui s'est passé.
Vous en profitez ce soir pour lancer un appel aux autorités françaises qu'on vous écoute.
Oui. Hein,
c'est ça, qu'on écoute votre voix et votre combat, c'est ça?
Exactement. C'est ça. C'est vraiment pour la mémoire de ma fille.
Merci beaucoup, Edwige Lègle de Neff, la maman de Florence, Alain Dalby et Maître Étienne Nicolo d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Florence de Neff. 11 ans de combat pour connaître la vérité, combat en mémoire d'une jeune prof assassinée. Espérons que justice lui soit rendue. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir ce soir partagé cette heure du crime.